Dans l'office tout à l'heure, nous avons chanté un tropaire qui vous est peut-être passé inaperçu. Dans les dépôts, dans les débauches, j'ai dépensé ma vie. Ah bah, faut quand même pas exagérer. Je suis quand même pas une roulée. Est-ce que ça veut dire, tous, ils vont pas dans ce que le monde habituel appelle la débauche absolue? Donc, ou l'office nous trompe, ou il prend des images, ou il exagère, et on n'est pas concerné. Et pourtant, la tradition de l'Église, c'est-à-dire l'expérience bimillénaire de l'Église, tenterait à nous prouver que nous sommes des débauchés. Je n'accuse personne. Mais je veux dire par là qu'il est nécessaire que nous prenions conscience de savoir en quoi nous sommes débauchés. Certes, je ne trouve pas beaucoup d'entre vous qui fassent le trottoir à Néguira. Il doit s'agir sur les boulevards de Néguira. Donc vraisemblablement, il doit s'agir d'une autre forme de débauche. Mais avouez que pour les uns et pour les autres, ça nous est quand même pas si facile que ça de nous reconnaître pour des débauchés. Or, on sait bien qu'on a quelques fautes, quelques imperfections. Donc, je vous excuse un petit peu vite d'abord, le Seigneur nous a créés comme ça. Puis papa et maman, ils sont un peu pour quelque chose. Le monde n'est quand même pas facile et ne nous invite pas à la contemplation céleste en permanence. Donc si après tout, il y a en moi quelque chose de débauché, j'en suis pas complètement responsable. D'ailleurs, avec le bien que je fais par ailleurs, après tout, l'un dans l'autre, il y a quand même plus de bien que de mal. Donc, vive le paradis. Mais notre expérience nous montre aussi, comme nous le lisions tout à l'heure dans les Lamentations d'Adam, et comme nous le disions aussi dans l'office de ce soir, la vie ne nous semble pas si positive que ça. On a quand même quelques souffrances. On a quelques déboires. La vie du monde ne nous satisfait pas pleinement. Et d'où vient cette insatisfaction? Ce sont les deux questions. Cette insatisfaction dans le monde, du monde, qui révèle le souhait, évidemment, d'un autre monde, le souhait d'une perfection, le souhait d'un idéal, que l'on essaie qu'on ne peut pas atteindre sur Terre, est l'une de nos deux questions. La deuxième question, c'est celle par laquelle je commençais. Comment sommes-nous des débauchés? Comment tombons-nous dans la débauche? Et précisément, il est évident que la débauche n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas celle que l'on présente habituellement. Mais la débauche, c'est la dissolution de notre vie dans l'esprit de ce monde, dans l'esprit rationnel, dans l'esprit matérialiste, dans l'esprit athée, car nous sommes tous athées. La débauche, c'est de se complaire, pour continuer l'expression, j'aurais dit se vautrer, c'est se complaire dans les choses bassement humaines. Enfin, humaines tout simplement, j'allais dire non spirituelles, non sous le regard de Dieu, non émanant de la vie de Dieu en nous. C'est ça notre débauche. En un mot, notre débauche, c'est l'oubli de Dieu. Oh, on y pense bien de temps en temps, quelques fois par jour, assez brièvement, des flashs, comme ça. Oui, il existe. Il paraît qu'il est bon, même. Mais ça, c'est pas une vie avec Dieu. Même le diable, même les démons sont des croyants. Ils croient en Dieu. Ils en sont jaloux, ça c'est autre chose. Ils veulent le détruire, ça c'est autre chose. Mais ils croient en lui. Donc, la seule foi en Dieu n'est pas suffisante pour prendre l'opposé de la débauche. Il faut encore que nous vivions de Dieu, que nous le voulions, que nous mettions notre énergie à le chercher et à le trouver. Et j'espère pouvoir revenir sur ce point si j'ai un peu de suite dans les idées, ce qui n'est pas absolument sûr. Et justement, le carême dans lequel nous entrons, qui n'est, je vous rappelle, que le symbole de toute notre vie, c'est toute notre vie qui est un carême, c'est notre vie qui est un essai de conversion, un essai d'abandon de nos perversions et de nos débauches, pour nous réfugier dans la vie sans douleur, dans la vie paradisiaque, c'est-à-dire dans la vie avec Dieu. Donc ce carême, symbole de notre vie, est précisément cette période particulièrement bénie où nous nous mettons à la disposition de l'Esprit Saint qui ne manque pas de descendre pour changer notre regard sur notre vie et sur Dieu. Notre carême n'est pas une prouesse ascétique. Il demande une ascèse, il demande un renoncement, même physique. Mais le renoncement physique n'est rien s'il n'y a pas autre chose de plus profond. Notre carême, le carême, tout carême, comme toute notre vie, consiste à nous éveiller à la reconnaissance de notre mode pécheur de vie. Comment nous sommes pécheurs? Comment nous reconnaître pécheurs? Ceci nous est facilité, nous est l'Église, c'est-à-dire l'Esprit Saint, met à notre disposition tout le cycle de ce carême pour nous faire entrer dans ce mystère de régénération, de conversion. Vous voyez, il n'y a pas de conversion possible si nous n'acquérons pas d'abord l'humilité du publicain, ou si nous ne nous appuyons pas sur l'humilité comme celle du publicain, qui, au lieu de se justifier, se reconnaissait pécheur et attendait de Dieu la miséricorde et le secours. Notre carême ne peut avoir d'efficacité que si, comme le fils prodigue, ayant pris conscience de notre débauche, nous ne décidions pas de retourner vers le Père, c'est-à-dire de changer de vie, d'avoir une vie deux fois, d'avoir une vie tournée et centrée sur Dieu. Notre carême serait encore vain si nous n'apprenions pas à travers tout cela, car la vie n'est pas seulement un renoncement, c'est l'adhésion, l'acquiescement, la recherche, la découverte de quelque chose de positif et qui nous rend heureux. c'est la découverte de l'amour, qui est la nature même de Dieu, et qu'il ne manque pas de nous communiquer en nous mettant à son image, pour que nous devenions nous aussi amour. Et l'amour, si je peux le résumer, est une attitude intérieure du renoncement, de l'oubli, le plus total, le plus exclu, oui, le plus total possible de soi-même, qui nous mène, comme nous l'avons vu dans le quatrième évangile de ces dimanches, quatrième dimanche de ces évangiles, au choix de servir l'autre, de visiter l'autre, de préférer l'autre à soi-même pour pouvoir, qui est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la miséricorde et dans l'amour de Dieu qui doit nous remplir au jugement dernier. Mais tout cela n'est encore qu'un prélude, d'une disposition intérieure pour découvrir autre chose. Il ne s'agit pas seulement de se reconnaître pécheur, il ne s'agit pas seulement de confesser la vraie foi, de croire véritablement en Dieu et de nous conformer au mode de vie qu'il sait qui est bon pour nous. Mais notre but, c'est de découvrir, de sentir et de vivre la miséricorde de Dieu. Si nous sommes appelés à nous reconnaître pécheurs, c'est pas seulement par humilité, c'est pas simplement pour nous rendre à l'évidence, pour appeler un chat un chat, mais c'est pour à travers la conscience de la profondeur de notre débauche, nous découvrions réellement, pas simplement par des livres, mais d'une manière expérimentale, que nous découvrions ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et que nos fautes, si graves, si répétées soient-elles, si profondes soient-elles, et si indéracinable apparemment soit-elle, que cette conscience-là nous fasse sentir, pas croire, mais nous fasse sentir, découvrir expérimentalement la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, afin de vivre de Dieu et de vivre pour Dieu. C'est pas simplement accomplir nos devoirs d'adoration. C'est pas seulement avoir l'humilité de ne pas nous confondre avec Dieu, mais c'est découvrir comment Dieu, pour chacun de nous, à travers chacune de mes débauches ou de ma manière personnelle d'être débauché, comment Dieu nous pardonne, comment il est présent, comment, à la suite de ce constat douloureux et glorieux à la fois, comment il nous transforme, comment il nous malaxe pour devenir des êtres nouveaux. Si nous ne devenons pas des êtres nouveaux sur terre, nous ne le serons pas non plus dans le royaume des cieux, parce que la vie sur terre n'est que le prélude du royaume des cieux. Non seulement il y a ces dimanches et les évangiles et les thèmes de ces dimanches qui nous aident à entrer dans ce mystère de reconversion, les dimanches qui vont suivre, les évangiles des dimanches qui vont suivre vont continuer à nous faire progresser, à nous faire cheminer à travers tout ce mystère de régénération jusqu'à l'arrivée de la lumière pascale, qui doit être une expérience personnelle de chacun d'entre nous en Église, c'est-à-dire en communion les uns avec les autres, mais expérimentée personnellement. Et encore, cette expérience de vie chrétienne ne s'arrête pas à la résurrection, puisqu'elle va jusqu'à l'ascension dans l'autre monde et notre session en Christ, avec le Christ, sur le trône de gloire de Dieu, avec Dieu. Notre but, le but de notre vie, la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur terre, c'est de nous donner la possibilité non seulement de dépasser la mort et de ressusciter, mais d'être englobé dans cette gloire de Dieu qui est son amour et auquel il veut nous faire participer. C'est ça l'enjeu de notre vie. Ça nous paraît de la théologie, ça nous paraît intellectuel, ça nous paraît inaccessible, certes, c'est inaccessible, mais c'est rendu accessible à nos pauvres personnes parce que Dieu lui-même s'est incarné, comme vous le savez, qu'il a pris notre condition pour les changer en sa condition. Et toute notre vie chrétienne est, le carême en est le symbole, consiste à découvrir cette vie et à changer de registre d'existence. C'est ce que nous chantons lorsque, dans les pandémies de chérubins, nous chantons « Déposons tout souci de cette vie » et « Ne cessons de vivre simplement des choses d'ici-bas, des choses humaines, disons. » Nous avons, pour nous aider à cela, puisque nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous avons la présence de l'Esprit-Saint qui nous a envahis au moment de notre chrismation. Nous avons le viatique de la Sainte Communion qui est une revivification perpétuelle de notre vie en Christ, parce que le Christ a vécu en nous et vit en nous. Nous avons l'éclairage des saintes Écritures qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Les quatre évangiles, bien sûr, d'abord, les épîtres, les écrits des pères et toute la tradition de l'Église qui se perpétue jusqu'à maintenant. Tout cela nous aide à entrer mystiquement dans cette vie d'amour de Dieu et d'amour pour Dieu. Ceci nous aide à nous déconnecter de la vie de débauche, la vie qu'on appelle d'ici-bas, la vie selon l'esprit du monde, ou comme vous le voyez, plus aujourd'hui qu'hier, baigné dans les douleurs, le mensonge et la peur, comme nous en parlions ce matin, mais pas simplement de cela, dans les turpitudes de tout genre, avec quelques joies entre deux, mais des joies bien, bien humaines, qui peuvent nous aider à tenir, mais qui sont éphémères, et qui, si elles n'ont pas une répercussion dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'éternité, seraient finalement un petit amusement momentané pour nous faire passer les moments difficiles, mais non pas une vie comme ça doit être. Nous avons aussi, et c'est un des thèmes majeurs du carême, nous avons aussi l'aide du jeûne. Je dis bien l'aide du jeûne. Je n'ai pas dit la cesse du jeûne. C'est évident que le jeûne est aussi un aspect aussi ascétique, c'est évident. Mais la cesse du jeûne est tout à fait secondaire. Il y a autre chose dans le jeûne. Le jeûne, c'est une libération. ce n'est pas simplement une image, ce n'est pas simplement que, en se libérant du poids des choses de ce monde, de cette table, on peut accéder à des choses spirituelles. Mais c'est que le jeûne en lui-même est une communion entre toutes les personnes qui se reconnaissent comme disciples du même Seigneur, le Christ. Le jeûne a la même valeur, si je peux dire, quoique d'une manière différente, a la même signification, le même résultat, la même efficacité que la Sainte Communion. Universellement, dans le monde entier, à quelques heures d'écart. Mais ça veut dire quoi ? Rien. Nous sommes hors du temps aussi. Tous ceux qui se reconnaissent disciples du Christ, frères du Seigneur, tout cela ne mange pas certaines choses et en même temps. C'est une véritable communion. C'est une Eucharistie. Une Eucharistie, c'est-à-dire une bénédiction. Parce que autant le pain et le vin consacrés au corps, au sang du Christ sont véritablement l'Eucharistie, le don de Dieu. Mais ce renoncement à la nourriture, parce qu'il est en Église, parce qu'il est en communion les uns avec les autres, et non pas parce qu'il représente un sacrifice que je choisirai plutôt qu'un autre, cette démarche manifeste humblement une préférence en Église, c'est-à-dire de tous les membres du corps du Christ, une préférence des choses spirituelles aux choses de la terre. Si bien que dans les jours qui viennent, quand vous aurez un moment de faiblesse, les jambes qui flageoleront un petit peu parce que vous n'aurez pas mangé pendant 12 heures, et d'autres symptômes que nous connaissons tous et qui sont normaux, dont il ne faut pas avoir peur, car elles ne sont pas le signe de la fin de notre vie par excès d'ascèse. Quand vous sentirez ça, dites-vous que de cette manière-là, vous exprimez votre communion les uns avec les autres en Christ, non seulement crucifié, mais en Christ ressuscité. Qu'est-ce que c'est que la communion, sinon une participation à la vie du Christ mort et ressuscité? Et nous, nous voudrions vivre sans mourir et sans ressusciter? Le jeûne, les offices, la prière de saint Éphrem, notamment, sont des moyens divino-humains qui nous sont donnés, qui nous sont accordés pour entrer mystiquement dans cette régénération de nos personnes. Mais il y a encore un autre aspect. Si nous jeûnons, si nous avons ainsi moins de force pour certaines activités physique ou intellectuel, il faut encore, c'est encore l'occasion où la possibilité nous est donnée pour remplir ce vide par autre chose. Nous économisons du temps, là je parle d'une manière un petit peu matérielle si vous voulez, hein, mais vous comprendrez ce que cela signifie. Nous économisons du temps en faisant moins de cuisine, à moins que vous ne vous évertuiez à faire des plats carémiques succulents, de manière à échapper à l'ascèse du jeûne, à la difficulté des jambes qui flageolent parce que vous mangerez à satiété, puis finalement vous vous régalerez bien avec les... Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du pharisianisme. Mais si réellement nous mangeons moins, si nous réduisons nos repas, on gagne du temps sur la préparation de la nourriture. Et on gagne du temps aussi sur le temps, sur celui que l'on consacre habituellement à nos soins corporels, en l'occurrence par la mendication, par les repas. Il faut remplir ça par autre chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter davantage des informations? On va aller se promener pour aller cueillir les personnages dans la nature? On va jouer à la pétanque ou comment dire, faire des réussites pour passer le temps ainsi gagné? On peut. Il y a d'autres méthodes encore, si vous voulez. Je peux vous en indiquer. Moi aussi, j'ai mes tentations. Mais ce temps-là, on peut le passer pour le consacrer davantage à Dieu, soit dans la prière, soit dans l'apprentissage, la découverte du contenu de notre foi. Donc, en le passant par un temps plus prolongé de lecture, ou un temps de lecture tout simplement parce qu'on n'en a pas d'habitude, de lecture spirituelle ou théologique, de lecture qui nous montre le royaume des cieux, et qui nous conduise, qui donne la force, la chaleur, l'envie, le dynamisme, l'enthousiasme pour découvrir et adhérer à ce royaume qui nous est promis et qui, parce que nous sommes des êtres charnels, dans un premier temps, ne nous paraît pas toujours, comment dire, accessible ou agréable, parce que ça demanderait des sacrifices. Depuis 40 ans, je souhaiterais, j'invite à ce que vous approfondissiez le contenu de votre foi, la connaissance du contenu de votre foi, même d'une manière intellectuelle. L'important, c'est ce qui est spirituel. Mais il faut aussi savoir à quoi on s'engage. Il faut savoir aussi ce que fait le Seigneur pour nous. Il faut aussi savoir comment lui répondre. Ça, c'est du domaine de la connaissance. Et il est indispensable que les uns et les autres nous apprenions un catéchisme un peu plus élaboré que le simple résumé du credo, dont la plupart d'ailleurs seraient bien incapables de délayer et d'expliquer ce que ça veut dire. Or tous, on devrait savoir et être capable d'expliquer ce que signifie chaque mot, chaque expression de notre pistevo, de notre « je crois en Dieu ». Vous savez, comme vous voyez, petit à petit, nous vous quittons. Et nous ne savons pas ce que sera demain. Nous avons une faute. Guéronda Élisée nous l'a rappelé lorsqu'il est venu il y a quelques semaines. La survie de notre communauté, de l'Église locale, ne peut venir que de nous. Et n'est pas de l'extérieur. De l'Esprit-Saint, d'accord. Mais n'allez pas me dire que l'Esprit-Saint ne souffle pas, ça ce serait un mensonge et un blasphème. Mais ça peut venir que de nous. Et nous avons une faute parce que notre communauté n'est pas capable de susciter du sein d'elle-même, de susciter des hommes ou des femmes qui se consacrent à Dieu. Nous attendons que ça vienne de l'extérieur. Nous sommes fautifs parce que nous n'approfondissons pas, nous ne prenons pas de temps pour approfondir la connaissance de notre foi. Ah ben on n'a pas le temps, c'est sûr. Un soir, on a du squash, le lendemain, on a du judo, le lendemain, on a du spectacle, le lendemain, on a... Tous les soirs sont occupés par des occupations. Il n'y a qu'une occupation à laquelle on n'a pas le temps de se donner, c'est la découverte de l'expression de notre foi. On n'a pas le temps Parce qu'on fait déjà des gros efforts, c'est sûr, c'est certain, pardon, à venir déjà à la liturgie tous les dimanches, ou un dimanche par mois, ou un dimanche par trimestre, ce qui demande, il est vrai dans ce monde, un gros effort, mais un gros effort qui est encore insuffisant. Il faut encore approfondir notre foi. Donc je vous encourage à utiliser ce carême pour trancher, retrancher dans nos vies des choses qui nous paraissent indispensables. Je ne dis pas de ne pas vous laver les dents, mais je vous dis qu'on peut économiser peut-être sur les 2 heures d'information, non, ou l'heure d'information que l'on avale chaque jour, ou d'autres choses, je ne vais pas vous dicter ce qu'il faudrait faire, pour pouvoir lire des choses qui nous réchauffe notre cœur, qui nous engage. Mais on en a aussi un petit peu peur, parce que c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Si jamais on découvrait véritablement ce qu'est l'amour de Dieu, on risquerait d'aller plus loin et on risquerait d'être tenté de couper encore des choses dans notre vie. Donc on a peur de cela aussi. Et à ce propos, bien que je vous laisse une totale liberté d'organiser votre vie comme vous le voulez, y compris dans vos lectures et dans vos recherches, dans votre recherche, disons, intellectuelle, vous voulez, hein. Mais je voudrais vous signaler, vous faire part d'une découverte récente pour moi, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, vous voyez que je suis quand même moderne, hein. Que vous pouvez trouver facilement sur Internet pour apprendre, découvrir avec enthousiasme la doctrine des pères de l'Église sur laquelle nous bâtissons, sur laquelle est bâtie notre foi, avec des conférences dont chacune dure à peu près 1 heure. Ah, et ben oui, il faut consacrer 1 heure quand même. Qui sont des cours de patristique par un certain abbé Bayot, Bayot. Je me permets de faire de la réclame pour lui, enfin pas pour lui, mais pour ses cours, parce que ils sont extrêmement vivants, c'est plein d'humour sain, il ne nous lit pas les pères de l'Église. Mais il nous apprend à les aimer, résume en quelque sorte leur doctrine, décrit sommairement ce que l'on peut trouver dans leurs écrits ou dans certains de leurs écrits, mais il nous communique un enthousiasme qui fait, méfiez-vous, qu'on aurait envie de passer des heures et des heures plutôt que d'aller au travail à lire les pères de l'Église. Alors bon courage. Il y a d'autres émissions, d'autres choses comme ça. Mais celle-ci, ces conférences-là, je crois que ça s'appelle cours de patristique. Mais je me rappelle, vous cherchez à Bayot, Bayot, et vous mettez patristique à côté, vous aurez toute la liste des cours qu'il donne. Mais c'est fait avec tellement de simplicité que ça donne envie à nous après de creuser ou de pas creuser. Et bien sûr, quand on a écouté une de ces conférences, on a tout de suite envie d'acheter les livres où on trouve ces textes patristiques. Et croyez bien que si je vous dis ça, c'est pas pour faire de la réclame. Pour acheter les livres du magasin des sœurs. Je referme cette semi-parenthèse, parce que ce n'était pas une parenthèse, c'était une piste que je voulais vous offrir. Mais je veux encore revenir ou évoquer deux aspects de nos débauches. Vous l'avez compris, le premier aspect, c'est cet oubli de Dieu, cette préférence par laisser aller, souvent pas par mauvaise volonté, mais par laisser aller des choses de ce monde plutôt que des choses célestes. Mais il y a un autre aspect que, pour lequel nous demandons à Dieu d'intervenir pour nous guérir, notamment dans la prière de saint Ephrem, que vous pouvez d'ailleurs reprendre comme sujet de méditation, où chaque terme de la prière de saint Ephrem est précis et montre un aspect de nos débauches contre lesquelles il est indispensable de lutter. Et le saint Ephrem demande nous conseille de demander à Dieu de nous guérir de l'infirmité de la domination. Pensez à cela, pensez sur tout le reste, évidemment. Mais la domination tue notre vie. Nous cherchons à dominer les autres. Nous luttons contre la domination des autres. Nous cherchons à dominer le monde. Nous voulons tout dominer. C'est-à-dire que nous faisons de notre moi un absolu. Je veux. Plutôt que de mettre le moi de Dieu, c'est-à-dire aussi le moi des autres. Cette domination se fait sentir, s'exprime d'une manière différente pour les uns et pour les autres. Mais globalement, c'est une domination qui nous fait scruter la vie des autres, évidemment pour les juger, peut-être pour nous rassurer nous-mêmes, parce que finalement, tout n'est pas parfait, donc de voir que les autres sont au moins aussi imparfaits que nous, ça nous rassure quand même. Ceci engendre inévitablement, ce sont les cercles vicieux des interventions diaboliques, engendre inévitablement de la jalousie. Et la jalousie est mortelle. La jalousie et l'envie nous fait encore nous lamenter sur notre indigence personnelle, sur nos erreurs et nos échecs, et nous venger. Oh, on ne le prend pas en termes de vengeance, mais de fait, c'est une vengeance par le jugement sur l'autre, par la critique, par le persiflage, par la jalousie en quelque sorte. Nous sommes tous atteints par cela. Mais ça nous paraît tellement naturel, tellement habituel, tellement normal, tellement humain, qu'on n'y fait même pas attention. Et chaque année, j'essaie d'attirer notre attention sur un aspect ou sur un autre de la vie spirituelle et de ses échecs ou de ses barricades. Et ce pouvoir, cette domination sur les autres, qui engendre la jalousie et l'envie, c'est un péché mortel. Péché mortel, non pas au sens de péché mortel où l'entend la théologie occidentale, mais en sens que ça amène la mort de l'âme. Par notre jalousie, par notre envie, nous tuons l'autre de manière insidieuse, par des petites réflexions, par des petites attitudes, par une domination, par une manière de faire remarquer ma supériorité, de la faire sentir, mes prérogatives. Et ça amène la mort. La mort est de celui qui exerce le pouvoir ou qui cherche à exercer le pouvoir, et la mort de celui sur lequel ce pouvoir-là, c'est une mort et un meurtre, les deux à la fois, si vous voulez. Et il est indispensable à l'entrée de ce carême que nous prenions conscience aussi de cet aspect-là parmi nos débauches. Mais non pas, et je vais finir par là, non pas seulement pour essayer de nous corriger, parce que ça c'est incorrigible. Mais ce qui est incorrigible par nous est corrigible par Dieu. Donc la première chose, c'est de nous rendre compte de nos fautes, de notre faiblesse, de notre indigence, de notre indignité, de nous en rendre compte, et après de supplier Dieu, avec notre participation, de nous guérir, de nous apprendre à nous guérir. Et il n'y a aucun doute que les circonstances de la vie, de vie dans lesquelles nous sommes plongés, que nos propres échecs, que les drames auxquels nous sommes ou serons confrontés, il n'y a aucun doute que ce sont les réponses à notre prière. Dieu nous exauce à travers ces épreuves-là pour nous faire nous dépasser nous-mêmes et nous apprendre à l'aimer et à aimer l'autre, ce qui est tout à fait le contraire, l'opposé total, absolu, du pouvoir de la jalousie et de l'envie. À Dieu soit la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et bon carême.